Merci, bonsoir à toutes et tous. Merci à la délégation du Secours catholique de nous proposer ce temps de conférence. Donc, je vais essayer de vous présenter cette exhortation apostolique, Dilexite, qui a été signée par le pape Léon XIV, mais dont lui-même dit dans le texte qu'elle a d'abord été écrite par le pape François, qui avait commencé à préparer ce texte. Sa mort l'a empêché de l'achever et de le publier. Mais le pape Léon donc a retrouvé évidemment ce manuscrit, a trouvé ce manuscrit quand il a reçu la charge de pape et il l'a complété et publié. Donc c'est un texte signé par un pape mais écrit par deux papes, on peut dire ça. Alors le sous-titre, on pourrait dire, de cette conférence, ce serait l'actualité d'une longue tradition. Parce que comme j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, il y a une lecture très longue de la tradition de l'Église catholique dans ce texte et l'enjeu, me semble-t-il, c'est d'en montrer l'actualité. Alors je termine cette toute petite introduction en vous disant que c'est un texte qui est court. C'est un texte qui est court. Il suffit de prendre le livre en main pour s'en rendre compte. C'est un texte aussi qui est facile à lire. Et donc le but de cette conférence n'est pas de remplacer la lecture de Dilexite, mais plutôt de vous encourager à la lire, Dilexite, qui signifie « je t'ai aimé ». Le plan de cette exhortation est assez simple à repérer. D'abord, il y a évidemment une introduction suivie d'un premier chapitre dans lequel le pape présente un peu son cadre de pensée, c'est-à-dire le monde dans lequel se pose la question dont il parle, qui est l'engagement de l'Église catholique avec les plus pauvres. Donc c'est un peu le point de départ de sa réflexion. Et puis ensuite arrive une longue lecture de l'histoire montrant comment, étape par étape, l'engagement des catholiques avec les plus pauvres s'est vécu. Alors il remonte aux écrits bibliques, pour commencer, à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, puis le chapitre 3 parle de la longue tradition de l'Église depuis les premières communautés chrétiennes et les pères de l'Église, les premiers théologiens, jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est le plus long des chapitres, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Ensuite, le chapitre 4 continue l'histoire en faisant un zoom sur le XXe siècle. Pourquoi le XXe siècle? Parce que c'est le siècle où apparaît ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église, et en particulier l'enseignement social des papes. Le monde a changé, c'est devenu un monde industriel, c'est devenu un monde où les échanges économiques se sont accélérés, c'est devenu un monde aussi où on prend conscience d'une pauvreté massive, et donc les papes commencent à écrire des documents d'enseignement éthique sur les questions sociales. Et le premier pape à le faire s'appelle Léon XIII. Donc évidemment, quand le pape Léon XIV choisit ce nom de pape, il l'a dit lui-même, c'est aussi en référence au pape qui a ouvert l'enseignement social de l'Église, qui a ensuite été poursuivi par les autres papes. Et puis il y a un cinquième et dernier chapitre qui, lui, se situe bien en 2025, puisque le texte date de la fin 2025, pour montrer l'actualité des défis, l'actualité des questions qui se posent à l'Église catholique, et en particulier l'actualité de cette question de l'engagement avec les plus pauvres dans l'Église. Donc vous l'avez compris, c'est un texte qui est largement tourné vers les catholiques, où le pape s'adresse aux membres de l'Église catholique, mais à cause du thème qu'il traite, qui est l'amour envers les pauvres, l'engagement avec les pauvres, c'est évidemment un texte qui peut avoir des résonances bien au-delà de l'Église catholique, pour toutes les personnes ou tous les groupes qui s'interrogent sur cet engagement avec les plus précaires. Alors, je ne vous propose pas d'aller paragraphe par paragraphe ou chapitre par chapitre. Il me semble que ce serait un peu austère. Et puis quand même, je le redis, le but, ce n'est pas de vous éviter de lire Dilexite, mais plutôt de vous inviter à lire ce document bref. Alors, je vais plutôt proposer cinq moments de réflexion, c'est-à-dire je vais sélectionner cinq aspects de ce texte. Je les sélectionne librement, mais il me semble qu'ils sont représentatifs quand même de ce que le pape dit dans ce texte. D'abord, je vais prendre un passage clé de la Bible, un passage même de l'Évangile, que le pape commence par citer et par commenter. Un passage qui tient un grand rôle dans tout le développement de Dilexite. Ensuite, je vais m'intéresser à une manière qu'il a de rappeler la tradition. Parce que si le pape rappelle la tradition de l'Église, c'est pas juste pour faire un livre d'histoire, c'est pour nous adresser un message. Ensuite, je vais me concentrer sur un moment de cette histoire. Donc après avoir réfléchi sur sa manière de convoquer l'histoire, je vais me concentrer sur un moment de cette histoire qui est un moment assez récent, après le Concile Vatican II, auquel il consacre plusieurs pages. Ensuite, quatrième aspect, je proposerai un regard politique, parce qu'il y a une dimension politique dans Dilexité, ce qui d'ailleurs n'a rien de nouveau, puisque dans l'enseignement social, les papes, de façon habituelle, se prononcent sur des questions économiques, sociales, politiques. Enfin, je proposerai une manière de procéder pour accueillir ce qu'il dit de plus original sur l'amour des pauvres et l'engagement avec les pauvres. Il y a une insistance sur une manière pour nous de cheminer avec les plus pauvres. Voilà le programme qui nous attend. D'abord donc, un passage clé de la Bible qui, comme je le disais, est cité par le pape, commenté par le pape et qui enfin commande, on peut dire, une grande partie du développement. C'est un passage de l'Évangile écrit par Matthieu au chapitre 26. Je vais le lire d'abord. Comme Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha, portant un flacon d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Elle le versa sur la tête de Jésus qui était à table. Voyant cela, les disciples s'indignèrent en disant « À quoi bon ce gaspillage ? On aurait pu, en effet, vendre ce parfum pour beaucoup d'argent que l'on aurait donné à des pauvres. » Jésus s'en aperçut et leur dit « Pourquoi tourmenter cette femme ? Il est beau le geste qu'elle a fait à mon égard. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Si elle a fait cela, si elle a versé ce parfum sur mon corps, c'est en vue de mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où cet évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. » Avant de commenter ce passage en général, je m'arrête sur deux paroles précises de Jésus. D'abord, à la fin, Jésus dit qu'on racontera en mémoire d'elle ou en souvenir d'elle ce qu'elle a fait. Il n'y a que deux passages dans l'évangile de Matthieu où Jésus annonce qu'on fera quelque chose en mémoire. Le premier passage, c'est celui-ci. Le deuxième, il est bien connu, c'est celui de la scène du dernier repas. Il prend le pain et le vin, le donne. Vous ferez cela en mémoire de moi. Donc quand Jésus dit en mémoire, c'est pas n'importe quoi. Et donc, il dit que, une autre consigne qu'il donne, on fera le geste eucharistique en mémoire de lui et on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle vient de faire. Sans doute on a été moins fidèle à cette consigne-là qu'à la consigne eucharistique parce qu'on ne rappelle pas beaucoup ce que cette femme a fait alors que pourtant c'est une consigne que le Christ nous donne. Autre expression qu'on trouve dans ce texte. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Voilà une phrase qu'on cite souvent de façon un peu résignée. Jésus n'a-t-il pas dit « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. » Alors, ce n'est pas la peine de s'inquiéter de la misère. Voilà, occupons-nous donc plutôt des choses spirituelles, puisque de toute façon, des pauvres, il y en aura toujours. Eh bien, ce n'est pas le sens de cette phrase. Et un point qui nous permet de le remarquer, c'est de savoir que ce n'est pas Jésus qui a inventé cette phrase. Ce n'est pas une phrase de Jésus, c'est une citation. C'est une citation du Deutéronome, un livre de l'Ancien Testament. « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous », ça vient du chapitre 15 du Deutéronome. Dans le chapitre 15 du Deutéronome, il faut savoir que Jésus, il le connaît par cœur, comme tous les juifs pieux de son époque. Les disciples de Jésus qui entendent ça, ils savent que c'est une citation. Matthieu qui écrit cet évangile, il sait que c'est une citation. Alors nous, on l'a un peu oublié parce que notre rapport à la Bible n'est pas le même que celui de Jésus et de ses disciples. Mais eux, ils le savent bien. Dans le chapitre 15 du Deutéronome, il y a trois mentions étonnantes des pauvres. Première mention, qu'il n'y ait aucun pauvre chez toi. dans le chapitre 15 du Deutéronome, il y a ce commandement de Dieu qu'il n'y ait aucun pauvre chez toi. Autrement dit, si vous suivez la loi de Dieu, si vous êtes fidèle, alors il n'y aura pas de pauvres. Conclusion, s'il y a des pauvres, c'est que nous sommes infidèles à la loi de Dieu. Quelques versets plus loin, mais seulement quelques lignes, on trouve « si jamais il y a un pauvre chez toi ». Autrement dit, si on est fidèle à la loi de Dieu, il n'y a pas de pauvre. Mais bon, comme on n'est quand même pas très fidèle, ce que le Deutéronome sait bien, si jamais il y a un pauvre, voilà comment il faudra faire. Et alors, on donne des correctifs, en fait, à sa pauvreté. Et encore quelques lignes en dessous, il est écrit « des pauvres, vous en aurez toujours avec vous ». Autrement dit, la loi de Dieu, si on y est fidèle, fait en sorte qu'il n'y aura pas de pauvres. Mais malheureusement, notre histoire est si violente, si marquée par l'injustice, que des pauvres, il y en aura toujours. Mais cette phrase, c'est une lamentation. Ce n'est pas juste un état de fait. Et surtout, cette phrase dans le Deutéronome, elle est une exhortation à agir. Puisque finalement, il y a quand même toujours des pauvres, voilà ce que vous devrez faire. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout une phrase fataliste. Ce n'est pas une phrase qui dit « bon, puisqu'il y a toujours des pauvres, alors faisons autre chose ». Non, non, c'est au contraire une exhortation. Alors je vais dire un mot de commentaire plus large de ce passage. D'abord, il ne faut pas, le pape Léon XIV met en valeur un point qu'il ne faut pas oublier. Le geste de cette femme, c'est d'abord un geste de compassion. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Elle vient et elle répand le parfum sur le corps de Jésus. Un geste de compassion que Jésus interprète dans la perspective de sa mort. Il dit « elle a fait ça en vue de mon ensevelissement ». De fait, Jésus est à peu de temps de sa passion. On est déjà à la fin du récit évangélique. Et vous savez que Jésus n'a pas été embaumé, contrairement aux autres morts de son époque. Parce qu'il meurt la veille du Shabbat, le vendredi soir. On le met au tombeau très vite avant que le Shabbat commence. Et qu'est-ce que viennent faire les femmes le dimanche matin, le premier jour de la semaine? Elles viennent l'embaumer parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Sauf qu'en fait, elles ne trouvent pas le corps, elles entendent l'annonce qu'il est ressuscité, donc le corps de Jésus, en fait, n'a jamais été embaumé. Et bien, ce geste de verser du parfum sur lui, Jésus l'interprète comme un embaumement par avance. Elle l'a fait en vue de mon ensevelissement. Et bien, prendre soin des morts, c'est dans la Bible, un geste de compassion, un geste comme de tendresse à l'égard de la personne qui vient de nous quitter. Et le pape Léon XIV est très sensible à ce geste et il affirme, en écho, il y a beaucoup de gestes de compassion dans notre monde qui demeurent et beaucoup de ces gestes quasi invisibles. Au Secours catholique, on les connaît bien ces gestes-là, il y en a tellement. Voilà, des gestes de compassion qui ne font pas grand bruit, dont on n'entend pas tellement parler, mais qui font qu'on tient debout. Et le pape d'affirmer, aucun geste d'affection, même le plus petit, ne sera oublié. C'est une manière de dire devant Dieu, voilà, Dieu n'oublie aucun de nos gestes de compassion, même le plus anonyme, le plus discret. Mais en même temps, Jésus dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ben oui, moi, vous ne m'aurez pas toujours, parce que Jésus est en train d'annoncer aussi sa mort. Précisément. Et donc, quand il dit « les pauvres, vous les aurez toujours avec vous », c'est une manière de dire que lui continue à être présent à travers les pauvres. Moi, vous ne m'aurez pas toujours, mais les pauvres, vous les aurez toujours. Autrement dit, il reprend cette phrase du Deutéronome qui déplorait qu'il y ait toujours des pauvres, et lui qui va mourir victime de violence et d'injustice, dit « bah, dans tous ces pauvres sur qui pèse la violence du monde ou l'injustice du monde, eh ben, je serai là, vous les aurez toujours avec vous. » Nous nous souvenons peut-être qu'à la fin de l'évangile de Matthieu, la dernière grande parole que Jésus dit, c'est « Je suis avec vous pour toujours ». Jésus ressuscité peut dire « Je suis avec vous pour toujours ». Ah bon, où et comment? Eh ben, d'abord, à travers les plus pauvres, puisque lui n'est plus visible. Mais les pauvres, ils sont bien visibles. Et donc le Christ ressuscité est présent dans les plus pauvres. Et le pape Léon insiste sur le fait que notre sensibilité à la présence du Christ, elle nous conduit bien sûr à le célébrer, au culte, mais donc aussi logiquement à l'engagement avec les pauvres. Et il rappelle avec insistance que dans l'Église, les premiers théologiens, notamment les pères de l'Église, ont rappelé que le culte sans le soin des pauvres était un culte injuste. Que le culte qui ne s'accompagnait pas du soin des pauvres, ben, ça veut dire qu'on n'était pas dans les justes dispositions pour célébrer la liturgie, pour célébrer le culte de Dieu. Voilà pour ce commentaire du passage biblique. Et vous voyez que le pape insiste sur l'aspect de compassion. Voilà qui nous ouvre à une sorte de structure interne à dilexité. C'est le jeu sur deux mots, la compassion et la libération. Deux mots qui reviennent l'un et l'autre. Il écrit au paragraphe 45, « Celui qui dit « aimer Dieu » et n'a pas compassion des nécessiteux est un menteur. » Autrement dit, l'amour de Dieu que nous essayons de vivre dans l'Église suppose un amour de compassion pour ceux qui ont les vies les plus difficiles, pour ceux qui vivent la misère et l'oppression, la violence. Il ajoute par ailleurs beaucoup le terme de libération. Par exemple, au paragraphe 21, la proximité aimante de Dieu est avant tout une œuvre de libération pour ceux qui sont prisonniers du mal, pour les faibles et pour les pauvres. Autrement dit, il résume l'agir de Dieu à travers ce terme de la libération. Dieu vient libérer les pauvres, les prisonniers du mal et les faibles. Ce sont ces termes. C'est intéressant d'articuler compassion et libération. La compassion, c'est quelque chose de très personnel. C'est de la tendresse, c'est quelque chose qui se passe vraiment d'un visage avec un autre visage, dans la grande proximité. La libération, au contraire, a un sens plus politique, plus large. Et l'intérêt de cette exhortation, c'est qu'elle marche sur les deux jambes, la jambe de la compassion et celle de la libération. Par exemple, on lit au numéro 10 l'insistance sur l'engagement en faveur des pauvres et pour l'élimination des causes sociales et structurelles de la pauvreté. Et le pape insiste, la compassion à l'égard des pauvres, sans lutter contre les causes de leur pauvreté, il dit c'est inconséquent, ce n'est pas sérieux. La compassion sans la libération, ce n'est pas sérieux. Mais la libération sans la compassion, ce n'est pas humain. Et voilà ce qu'il dit au paragraphe 101, c'est seulement à partir de cette proximité réelle et cordiale que nous pouvons les accompagner comme il convient sur leur chemin de libération. Autrement dit, les personnes pauvres, précarisées, qui cherchent à se libérer de la misère, de la violence, elles cherchent déjà à se libérer, nous sommes appelés à les accompagner, et ça nous ne pourrons le faire de façon juste que dans la compassion, à partir de cette proximité très humaine et qui se vit dans la rencontre. Compassion et libération, libération et compassion. Ça me semble un équilibre très précieux qui nous invite à ne pas choisir entre les deux, mais qui dit le bon critère de la libération, c'est la compassion personnelle, et le critère qu'on a une vraie compassion, c'est cet engagement pour la libération. Voyez comme ce passage biblique nous emmène loin. Je passe maintenant à la suite de l'argumentation du pape qui rappelle la tradition. Alors d'abord, s'il la rappelle, c'est en montrant une immense diversité de figures. Dans la manière dont Léon XIV relie 2000 ans de christianisme, 2000 ans de christianisme, en 20 pages, donc vous faites une bonne affaire parce que vous avez toute l'histoire en quelques pages seulement. Dans cette histoire, il y a des hommes et des femmes, et il insiste, des hommes et des femmes. Il y a des laïcs. Dans cette histoire, il y a des papes et des évêques, notamment les pères de l'Église, ces grands théologiens des premiers siècles, qui pour beaucoup étaient des évêques. Dans cette histoire, il y a des religieux. Il cite les moines et les moniales, la vie contemplative. Il cite les ordres mendiants apparus au Moyen Âge. Il cite les ordres charitables. Dans cette histoire aussi, il y a des mouvements politiques. Il les cite. Autrement dit, c'est une manière de rappeler la tradition qui n'insiste pas sur un type de figure, mais sur la variété de ces figures. Pourquoi ? Parce que l'intérêt pour le pape, c'est que chacun, chacune d'entre nous puisse se reconnaître dans ces figures. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes laïque, vous êtes évêque, vous êtes religieux ou religieuse, vous êtes dans un mouvement politique, vous n'êtes pas dans un mouvement politique. Vous pouvez vous laisser inspirer par cette tradition. L'intérêt, c'est d'en montrer la richesse. Il n'y a pas une manière de nous engager à l'égard des plus pauvres. Elles sont multiples. Et donc, c'est une manière de dire que cette tradition demeure inspirante. Cette longue tradition, elle continue à nous porter et à nous éclairer. Allons maintenant un petit peu plus loin. Cette inspiration, elle est non pas pour qu'on recopie. Le but n'est pas que nous fassions comme Saint François d'Assise ou comme Saint Jean Chrysostome, deux exemples qui sont cités. La diversité est inspirante, mais aussi la créativité. Et le pape montre comment, époque après époque, les défis changent, et bien les manières de s'engager avec les pauvres et de lutter contre la pauvreté et ses causes, elles évoluent. Et donc, il ne nous invite pas à faire comme au Moyen-Âge ou à faire comme en 1512. Il nous invite à avoir la même créativité que ceux qui sont passés avant nous, à avoir la même inventivité. C'est ça qui peut nous inspirer. C'est pour ça qu'elle est importante, cette variété, pour mettre en valeur notre créativité. Et en somme, il nous invite à nous tenir à la hauteur de notre tradition. Voyez, dit-il, jamais ça n'a manqué, en fait, l'engagement avec les pauvres dans l'histoire de l'Église. Jamais ça n'a manqué. L'Église n'est pas parfaite dans son histoire, l'Église catholique, loin de là. Mais il y a toujours eu cette dimension-là. Eh bien, à nous de continuer avec la même créativité. Et alors, il tire argument de la tradition pour renforcer une affirmation du paragraphe 23. Je le cite. « Je me demande souvent pourquoi, malgré cette clarté des Écritures à propos des pauvres, beaucoup continuent à penser qu'ils peuvent tranquillement les exclure de leurs préoccupations. » Autrement dit, les Écritures sont claires. Mais en plus de ça, dans l'histoire de l'Église, ça n'a pas manqué. Voilà, ça s'est vécu de bien des manières, cette proximité à l'égard des plus pauvres. Donc vous voyez, je passe très vite là sur 2000 ans. Alors lui, il fait en 20 pages, moi je viens de le faire en 5 minutes. Mais c'est une manière de dire que l'enjeu n'est pas de nous attacher tant à tel ou tel moment de l'histoire lointaine, mais au contraire de nous laisser inspirer par la variété même de cette histoire, sa créativité. Dans cette longue histoire, il y a un moment historique sur lequel le pape se concentre. Alors, on le voit arriver dans le plan. Je vous ai dit, notamment le chapitre 4 se concentre en fait sur le long XXe siècle. On pourrait dire entre Léon XIII et Léon XIV, ce temps de l'époque industrielle et de l'enseignement social de l'Église. Mais plus précisément, il va insister sur un mouvement qu'on appelle la théologie de la libération. Alors, le terme ne se trouve pas dans Dilexité. Il y a le terme libération, plusieurs fois, j'en ai déjà parlé. Il y a le terme théologie, mais il n'y a pas théologie de la libération. Il va parler de l'Amérique latine après Vatican II. Et en Amérique latine, le chemin de l'Église d'Amérique latine après Vatican II, sur le plan théologique, il s'est caractérisé par la théologie de la libération. J'en dis un mot, le Concile Vatican II, je rappelle qu'il s'est terminé en 1965, donc il y a une soixantaine d'années. Le pape rappelle la manière dont le Concile a considéré cette question de l'engagement des catholiques avec les pauvres. Et puis, après le Concile Vatican II, les églises en Amérique latine, l'église catholique en Amérique latine, a vécu une manière particulière de s'approprier ce Concile en prenant conscience de la pauvreté du continent, qui était à la fois massive, une pauvreté massive, mais aussi une pauvreté injuste. Et donc l'épiscopat, les évêques d'Amérique latine dans les années 1970 puis 1980, ont fait le choix de ce qu'ils ont appelé l'option préférentielle pour les pauvres, c'est-à-dire une manière pour l'Église de se tenir prioritairement aux côtés des pauvres et aussi une manière pour l'Église de reformer sa manière de s'organiser, de reformer sa vie communautaire avec et autour des plus pauvres. Donc ça a été une manière créative, encore une fois créative, de s'approprier le Concile Vatican II, qui avait pour principale qualité de ne pas considérer justement que la pauvreté était un malheureux hasard de l'histoire. Voilà, bah, il y a des pauvres, tant pis. Ben non, justement, il y a des pauvres de façon massive, c'est injuste. Comment est-ce que notre Église se réajuste pour cheminer avec eux? L'option préférentielle pour les pauvres, le pape en dit un des aspects au paragraphe 90, je le cite, « L'Église, pour être pleinement fidèle à sa vocation, doit non seulement partager la condition des pauvres, mais aussi se mettre à leur côté et s'engager activement pour leur promotion intégrale. » On a une belle définition de ce que c'est que l'option préférentielle pour les pauvres. Partager la condition des pauvres. Voilà une bonne question. Quand des gens précarisés viennent dans un lieu de notre Église, est-ce qu'ils se sentent chez eux ou est-ce qu'ils sont transplantés dans une terre étrangère? L'option préférentielle pour les pauvres, c'est qu'ils sont chez eux parce que la communauté catholique a fait le chemin de les rejoindre là où ils sont et donc est en capacité de les accueillir. De sorte qu'il n'y a pas d'un côté l'Église, de l'autre côté les pauvres, mais que la présence des pauvres parmi les membres de l'Église est évidente et que l'engagement des membres de l'Église avec eux l'est aussi. D'où le fait que le pape continue, l'Église doit partager la condition des pauvres, mais aussi se mettre à leur côté, parce que bien entendu dans l'Église, il n'y a pas seulement des pauvres, et donc il y a l'enjeu que tout le corps ecclésial se mette à leur côté, et, ajoute-t-il, s'engager activement, bon, il aurait pu dire s'engager, c'est déjà actif, mais il insiste, s'engager activement pour leur promotion intégrale. Promotion intégrale, ça veut dire, il y a la dimension économique de misère, il y a la dimension politique de l'injustice, il y a la dimension culturelle du regard qu'on porte sur les personnes, il y a bien sûr aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, la dimension spirituelle, la capacité libératrice qu'a l'Évangile quand nous l'entendons, quand nous le vivons. Donc, on peut dire que l'option préférentielle pour les pauvres, elle tient une place assez majeure dans Dilexité. Mais il reprend un autre concept qui vient des théologies de la libération. L'option préférentielle pour les pauvres, c'est vraiment les théologies de la libération. Un autre concept, c'est les structures de péché. Les structures de péché. D'habitude, quand nous pensons au péché, nous pensons à un acte qu'une personne commet, un acte mauvais qu'une personne commet. Si j'insulte un de mes amis, c'est un péché, c'est moi qui commets ce péché. C'est bien clair. Mais il y a, les théologies de la libération ont insisté là-dessus, des péchés structurels. Par exemple, aujourd'hui, si j'achète un téléphone portable, je le fais parce que j'en ai peut-être besoin pour mon métier. Mais dans mon téléphone portable, il y a des terres rares qui ont été extraites dans des conditions inhumaines, avec des gens qui meurent dans les mines dans différentes parties du sud global. Voilà l'exemple d'une structure de péché. Mon but à moi, quand j'achète un téléphone, c'est pas d'exploiter des gens. Mais j'ai besoin d'un téléphone. Et puis, s'il n'est pas trop cher, ça m'arrange. Et donc, dans des lieux de la planète, il y a des structures qui existent pour que je puisse acheter ce téléphone pas trop cher, qui sont des structures de péché. On parle de structure de péché pour dire que ça va au-delà de ce qu'une seule personne peut transformer. Moi, si j'ai insulté un de mes amis, c'est à moi de convertir mon cœur pour que ça s'arrête. Voilà. Mais ça dépend surtout de moi, en fait. Un peu de Dieu dont j'aurais besoin qu'il m'aide, mais ça dépend largement de moi. Mais dans les structures dont je viens de parler, on voit bien que ça dépasse largement ce qu'une personne peut changer. Et donc, cette prise de conscience des structures de péché, elle est importante. Elle nous aide à ne pas accepter comme normal des choses qui ne le sont pas, mais elle nous invite aussi à ne pas porter notre inquiétude ou notre regard éthique seulement au niveau personnel, mais aussi à faire attention à la manière dont nous utilisons notre argent, dont nous vivons dans notre société, à l'échelle du monde, etc., etc., etc. Il se trouve que ces deux concepts, option préférentielle pour les pauvres et structure de péché, qui viennent des théologies de la libération, qui ont été adoptées par les évêques latino-américains, sont deux concepts qui ont été repris dans l'enseignement des papes dès Jean-Paul II. Dès les années 1980, en 87 précisément, Jean-Paul II avait intégré ces concepts à son enseignement. Et pourtant, on peut dire que les théologies de la libération, et plus largement le chemin de l'Église catholique en Amérique latine, a connu une réception difficile. Ça a été plein de controverses. On a notamment accusé ces théologies d'être trop politiques ou pas assez spirituelles, ou de mettre l'Église trop au service de la libération, sans garder le caractère gratuit de la vie spirituelle, de l'annonce de l'Évangile, de la célébration liturgique. C'est intéressant de voir que ici le pape, on peut dire, se réconcilie avec la théologie de la libération, non pas lui personnellement, l'enjeu c'est pas lui, mais après ces années assez conflictuelles où il y a eu aussi des conflits entre la curie romaine et l'Église en Amérique latine, ben là il y a une forme de réconciliation précisément. Elle va jusqu'au point que, avec peut-être il a eu un sourire en écrivant ça, le pape cite un document de 1984 écrit par la Congrégation pour la doctrine de la foi, un organisme romain, qui était très sévère avec les théologies de la libération, très sévère, mais dans lequel il y avait quelques paragraphes positifs. Eh bien, le pape cite seulement un paragraphe positif. Il y a un petit clin d'œil qui est du côté de la réconciliation, précisément. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'inspiration des théologies de la libération dans ce texte, donc, encore une fois, de théologies qui s'inquiètent de la manière dont nous allons suivre le Christ concrètement dans un monde où il y a tant de misère ou d'oppression ou d'injustice, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de suivre le Christ dans ce monde-là? Ce qui est intéressant, c'est que le pape ne fait pas que de parler de ce chemin-là à un endroit. En fait, il me semble que ça inspire la manière dont il a lu la Bible au long de l'exhortation. Il n'y a pas seulement le passage donc, où il en parle, mais sa manière de se rapporter à la Bible, sa manière de se rapporter au chemin du Christ. En fait, c'est une manière qui est assez dépendante des théologies de la libération, assez inspirée par les théologies de la libération. Je m'explique. Si vous lisez le paragraphe 8, il écrit « Quand on parle de l'amour des pauvres, il y a un texte de l'Écriture sainte d'où il faut toujours repartir. Bah, » Évidemment, on se dit « c'est l'Évangile ». Non ? Enfin, l'Évangile, c'est bien. Mais il dit « c'est l'Exode ». C'est l'Exode. Or, s'il y a bien une théologie qui a insisté sur l'importance de l'Exode, c'est bien les théologies de la libération. Ça a d'ailleurs fait controverse. Pourquoi ? Parce que l'Exode, c'est ce moment où il y a ensemble, la révélation de Dieu et la libération de l'esclavage et de l'oppression. Le moment où la manifestation de Dieu va avec une libération d'ordre économique, social, et politique. Les deux sont incroyablement mêlés, vont ensemble. Alors évidemment, ça informe ensuite notre manière de lire l'Évangile. Le pape reprend un autre concept qui vient des théologies de la libération et qui avait déjà été adopté par Benoît XVI puis François. On peut parler, écrit-il, on peut parler théologiquement d'une option préférentielle de Dieu pour les pauvres. Alors l'option préférentielle pour les pauvres, j'en ai déjà parlé. C'est surtout une option de l'Église, et puis qui a un retentissement social. Mais ici, le pape dit, c'est une option de Dieu pour les pauvres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est Dieu même qui choisit les pauvres en premier. Que c'est Dieu même qui a compassion des pauvres en premier. C'est pas juste un choix humain, c'est un choix ancré en Dieu même. Mais nous n'avons pas forcément l'habitude de parler de Dieu de cette manière. Et pourtant, je le redis, ce n'est pas le pape Léon qui l'a inventé, ce n'est pas le pape François qui l'a inventé, ça vient certes des théologies de la libération, mais on le lit sous la plume de Benoît XVI. À un moment d'ailleurs où il était en Amérique latine. Au paragraphe 18, le pape Léon écrit à nouveau, il parle de la prédilection, donc l'amour de préférence, la prédilection de Dieu pour les pauvres, et le désir divin d'écouter leur cri. Ben oui, le cri des pauvres, c'est ce qui apparaît dans l'Exode. Quand Dieu se montre à Moïse, il dit « J'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu sa souffrance ». Eh bien, ça montre un Dieu sensible au cri des pauvres et un Dieu qui choisit de rentrer dans l'histoire, enfin disons de s'engager concrètement dans cette histoire à travers Moïse, en faveur des pauvres et avec ce peuple qui est réduit en esclavage et aussi d'ailleurs à la famine. Alors tout ce trajet de l'Ancien Testament et de l'Exode, le pape écrit toujours au paragraphe 18 que ça se réalise en Jésus. C'est-à-dire que Jésus, c'est celui qui concrétise, on pourrait dire qui cristallise cette préférence de Dieu pour les pauvres. Et bien, ça me semble assez intéressant de comprendre comme ça la mission de Jésus. Jésus, celui qui cristallise l'amour préférentiel de Dieu pour les pauvres. Voilà pourquoi Jésus passe autant de temps avec les plus pauvres. Là encore, on pourrait dire que c'est à la fois une compassion très très humaine, mais c'est une compassion qui part du cœur de Dieu. Et le pape de rappeler un peu dans les détails comment Jésus a vécu comme simple travailleur, de façon modeste. Jésus n'a pas vécu dans la misère, mais de façon modeste. Comment lui-même il a vécu son ministère ensuite au contact des plus pauvres. Et puis le pape de rappeler sa mort en croix, qui est vraiment une mort dans l'exclusion, hein, bien sûr dans la souffrance, mais aussi dans l'exclusion, avec une condamnation injuste, avec de la torture. Et puis ce symbole, vous savez, de Jésus qui est crucifié hors de la ville. Jésus qu'on sort de Jérusalem. Voilà, un geste d'exclusion incroyablement révélateur. Et puis, au paragraphe 26, le pape écrit « La primauté de Dieu dans l'enseignement de Jésus » ça veut dire évidemment dans l'enseignement de Jésus l'annonce de l'amour de Dieu, l'annonce du visage de Dieu, si j'ose dire, la révélation de Dieu tient une place centrale. « La primauté de Dieu dans l'enseignement de Jésus s'accompagne d'un autre point ferme. Que l'on ne peut aimer Dieu sans étendre son amour aux pauvres. » Qu'est-ce que ça veut dire étendre son amour ? Ça veut dire étendre mon amour à moi ? Je ne peux pas aimer Dieu sans étendre mon amour aux pauvres ? Oui, ça veut dire ça sans doute. Mais ça veut dire aussi, on ne peut aimer Dieu sans étendre l'amour de Dieu aux pauvres. C'est-à-dire, on ne peut pas aimer Dieu sans comprendre que Dieu aime les pauvres de façon préférentielle. Donc vous voyez, c'est un document qui, tout en étant assez simple, est assez radical. Parce que il ne nous invite pas seulement à faire ceci ou faire cela, mais il montre comment ce mouvement part de Dieu, du cœur de Dieu. Je continue avec une dimension politique qui est présente dans ce texte et qui, je le redis, n'est pas une originalité, c'est courant dans l'enseignement social de l'Église. C'est intéressant de voir que un peu le chemin par lequel le pape arrive à la dimension politique, c'est d'abord un aspect plutôt culturel, ou on pourrait dire anthropologique. On lit au numéro 9. La condition des pauvres est un cri qui, dans l'histoire de l'humanité, interpelle constamment notre vie, nos sociétés, nos systèmes politiques et économiques, et, enfin et surtout, l'Église. On retrouve le cri dans cette citation, le cri de l'Exode, le cri du peuple pauvre qui en appelle à Dieu. La condition des pauvres est un cri qui interpelle. Et ensuite, il y a les échelles, l'échelle personnelle, qui interpelle notre vie. L'échelle sociale, nos sociétés. L'échelle des structures, nos systèmes politiques et économiques. Et, alors il aurait pu juste rajouter l'Église, mais il ajoute enfin et surtout l'Église. Autrement dit, s'il y a bien une, à la fois un peuple et une institution qui doit se préoccuper, qui doit être travaillée, interpellée, c'est son verbe, interpellée par le cri des pauvres, bah c'est l'Église. Alors, en même temps, le pape n'est pas naïf, ni à l'égard de l'Église, ni à l'égard de notre monde. Et notamment, il écrit au paragraphe 11, « L'engagement concret en faveur des pauvres doit également s'accompagner d'un changement de mentalité susceptible de se répercuter au niveau culturel. » Et en fait, il insiste à de nombreuses reprises sur cette dimension des mentalités. On s'est habitué à la misère. On s'est habitué à l'injustice et on s'est habitué à des préjugés à l'égard des pauvres. Et donc, il y a un enjeu politique qui est d'abord de conversion des mentalités. Il parle notamment, toujours au paragraphe 11, d'une culture qui tolère la misère avec indifférence, sans que l'émotion momentanée n'ait vraiment d'impact. Et il rappelle, vous vous en souvenez sans doute, cette photo du petit Aylan sur une plage de Turquie, il y a déjà plusieurs années. Hein. Vous savez, cet enfant qui était allongé sur sa face, mort sur une plage, voilà, dans un chemin d'exil, de migration. Et le pape de rappeler l'émotion mondiale. Mais avec quelles conséquences ? Là, on est vraiment dans la question des mentalités ou de la culture, où l'émotion momentanée ne fait pas tout et peut-être même ne fait pas grand-chose en réalité. Alors je cite ici de nouveau le paragraphe 11. « Dans un monde où les pauvres sont de plus en plus nombreux, nous assistons paradoxalement à la croissance de certaines élites riches qui vivent dans une bulle de conditions très confortables et luxueuses, presque un autre monde. Presque un autre monde. C'est intéressant de voir les choses comme ça. Parfois on dit, les plus pauvres sont dans un autre monde que le reste de l'humanité. Le pape dit, non, en fait le problème c'est qu'il y a une bulle où vivent des très riches qui, eux, sont dans un autre monde que le reste de l'humanité. C'est un discours qui est assez fort, me semble-t-il, justement par sa manière de voir les choses. Et il est très dur à l'égard de ce qu'il appelle, au paragraphe 92, une minorité heureuse. Une minorité heureuse. En disant, voilà l'état du monde, voilà ce que vivent les pauvres, et pendant ce temps-là prospère une minorité heureuse. Et dans ce même paragraphe 92, il insiste sur le fait que cette minorité heureuse, elle vit de façon de plus en plus inégale par rapport au reste de la population, de façon de plus en plus différente, et une différence qui grandit par rapport au reste de la population. Et il mentionne aussi une différence qui défie le contrôle des États. Autrement dit, il peut y avoir une minorité qui vit de façon tellement confortable que les États n'ont même plus le pouvoir d'organiser la solidarité. Et on voit comment ici le pape, en filigrane, dit l'importance de la dimension politique, c'est-à-dire de choix politique, d'une dimension de délibération, où on peut choisir comment on vit la solidarité sans que certains puissent y échapper. Et, dans la ligne de Laudato Si, au numéro 95, il rappelle qu'un des problèmes majeurs, c'est qu'une minorité heureuse consomme de façon insoutenable pour la planète. Évidemment, qui sont les premiers qui vivent de façon terrible les conséquences de ça? Ce sont les plus précaires. Il pose alors la question, toujours au paragraphe 95, en fait, la souffrance des pauvres, elle pose la question pas seulement de notre agir à l'égard des pauvres, elle pose la question de notre dignité commune. Que les pauvres vivent ainsi, ça pose la question, mais qu'est-ce qu'on est, nous les humains? Qu'est-ce que c'est notre humanité qui vit comme ça et qui vit dans de telles inégalités? Donc vous voyez comment la question politique et économique, elle est abordée par ce biais culturel des mentalités, de l'habitude, du rapport à la majorité et à une grande partie de la population qui vit de façon pauvre. Il insiste alors, numéro 93, il devient normal d'ignorer les pauvres et de vivre comme s'ils n'existaient pas. Vous voyez, on peut dire que ce n'est pas un texte où le pape va proposer des solutions politiques très concrètes à la pauvreté, sauf sur l'un ou l'autre point où je reviendrai. Mais il insiste surtout sur si on n'ignorait pas les pauvres, alors ça entraînerait un certain nombre de changements. Par exemple, cette ignorance des pauvres, il la caractérise à travers des préjugés. Il en nomme deux. Au numéro 108, le préjugé que les pauvres sont responsables de leur propre misère. S'ils sont pauvres, c'est de leur faute. S'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer leur budget. S'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas les outils pour s'en sortir. S'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils ne comprennent pas leur propre problème. Voilà des choses qu'on entend souvent. Autre préjugé, les pauvres ne veulent pas travailler. Et le pape rappelle le travail quotidien de ceux qui sont condamnés à la misère et qui travaillent juste pour pouvoir survivre. Enfin, vous voyez, cette espèce de travail incessant et tellement fatigant de juste devoir essayer de survivre, de protéger ses enfants. Voilà. Alors, le pape vient sur le terrain politique, justement, contre l'ignorance à l'égard des pauvres. Qu'est-ce qu'il demande? Il publie une sorte d'avis de recrutement. On cherche des hommes ou femmes politiques capables de dialoguer avec les pauvres. Voilà une qualité qu'il attend chez les responsables politiques, capables de dialoguer avec les pauvres. Pourquoi? Pour aller aux racines des maux. Maux, M-A-U-X, bien sûr. Aller aux racines, ça veut dire que des hommes ou des femmes politiques capables de dialoguer avec les pauvres, pas seulement pour être gentils, mais parce que s'ils ignorent ce que vivent les pauvres, ils ne pourront pas aller à la racine de ce qui les fait souffrir. Au paragraphe 97, le pape écrit « Il incombe donc à tous les membres du peuple de Dieu de faire entendre une voix qui réveille, qui dénonce, qui s'expose, même au risque de passer pour des idiots. » Ce sont les mots du pape. J'aime beaucoup son réalisme. Autrement dit, pour rappeler ce que vivent les pauvres, pour ne pas permettre qu'ils soient ignorés, là il y a une responsabilité ecclésiale dans le champ politique. Ce n'est pas à l'Église de dire on doit fixer le curseur fiscal exactement comme ceci ou comme cela, ce n'est pas de sa compétence. Mais par contre, rappeler les pauvres, rappeler ce qu'ils vivent, lutter contre les regards faux qui pèsent sur eux, cette voix qui réveille, qui dénonce, qui s'expose, ben ça fait partie de la responsabilité politique de l'Église, même au risque de passer pour des idiots. Et c'est vrai que quand on parle des plus précaires ou des plus pauvres, on peut être facilement soit rabat-joie, hein, soit c'est trop simple de prendre en considération, de tenir des discours moralisants, etc. Ben, peut-être que c'est trop simple de les oublier aussi. Voilà. Donc, il faut pour ça accepter, en chrétiens que nous sommes, de passer pour des idiots. Je termine avec une manière de procéder. C'est-à-dire que dans la manière dont le pape articule l'engagement de l'Église à l'égard des plus pauvres, il insiste sur une manière de faire. Cette manière de faire, c'est l'écoute des plus précaires. Il y a déjà eu des textes pontificaux qui insistaient sur l'écoute des pauvres. Mais il me semble que dans Dilexité, c'est plus prononcé. Comme il l'a dit, écouter les plus pauvres, dialoguer avec eux, c'est un enjeu majeur pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire au moins deux choses, voire trois. D'abord, faire attention non seulement à la voix individuelle, mais aussi à ce que le pape appelle les communautés marginalisées. Les communautés marginalisées, c'est donc une attention aux groupes qui peuvent prendre la parole. Pas seulement à ce que chaque personne précaire peut dire, mais aussi aux conditions dans lesquelles, en groupe, en communauté, elles peuvent parler et on peut les écouter. Autrement dit, créer des conditions concrètes pour que les voix des plus pauvres soient entendues. Et c'est des conditions largement communautaires. Ensuite, dans l'écoute des plus précaires, le pape insiste sur l'attention spirituelle à leur égard. C'est un terme du pape François, en fait. L'attention spirituelle à leur égard. Et on se souvient combien François luttait contre l'oubli de la vie spirituelle des plus pauvres. Hein, contre un accompagnement des plus pauvres qui se résumerait à la nourriture ou le logement ou d'autres paramètres économiques. Attention, le pape ne disait pas que ces paramètres n'étaient pas importants. Ils sont évidemment importants. Il luttait contre le fait qu'on se soucie seulement de ces paramètres et pas de la vie spirituelle des plus pauvres, qu'on oublie leur vie spirituelle, alors qu'elle fait partie de ce qui les fortifie, de ce qui les tient debout. Et vraiment, quand on chemine avec des personnes qui ont connu la précarité, elles disent combien les relations, la confiance en Dieu, la prière, bah c'est ça qui les a fait traverser bien des choses. Donc on n'a pas le droit de manquer de cette attention spirituelle à leur égard. Et il développe, au numéro 79, le pape développe, les plus pauvres ne sont pas seulement objets de notre compassion, mais des maîtres d'évangile. Il ne s'agit pas de leur apporter Dieu, mais de le rencontrer en eux. Autrement dit, il ne s'agirait pas de penser que les pauvres sont pauvres en spiritualité. Il ne s'agit pas de penser qu'on doit aller vers eux pour leur donner Dieu comme on donnerait un billet de banque. Il s'agit de reconnaître leur vie spirituelle, de la valoriser et de rencontrer Dieu dans la rencontre que nous vivons avec les plus pauvres. Ça me semble très important pour notre Église de reconnaître dans les plus précaires ce que le pape appelle des maîtres d'évangile. Nous avons à recevoir d'eux l'évangile. C'est important pourquoi ? Non seulement pour comprendre l'évangile, ce qui est quand même un but légitime, mais c'est important aussi parce que ça permet de considérer les plus précaires dans leur richesse aussi, dans la profondeur de ce qu'ils vivent, pas seulement comme des personnes marquées par le manque, mais aussi comme des personnes qui ont à apporter. Et on sait combien permettre aux personnes précarisées de parler, de partager leur vie spirituelle avec d'autres, de partager ce qu'ils portent de plus profond avec d'autres, ça fait partie de la lutte contre ce qui déshumanise, ce qui anéantit, contre la misère, contre la violence, etc. Au paragraphe 7 et au paragraphe 103, et je vais terminer par là, le pape reste dans cette perspective spirituelle en parlant du renouveau de l'Église. C'est logique qu'il en parle. Il a insisté pour dire qu'une Église sans les pauvres n'est pas une Église fidèle à elle-même. Une Église où l'engagement avec les plus pauvres fait défaut est une Église qui n'est pas cohérente. Alors il parle du renouveau de l'Église catholique et c'est vraiment le message d'un pape qui est un pasteur. Au paragraphe 7. Je suis convaincu que le choix prioritaire en faveur des pauvres engendre un renouveau extraordinaire, tant dans l'Église que dans la société. Lorsque nous sommes capables de nous libérer de l'autoréférentialité et que nous parvenons à écouter leurs cris. Il y a donc un enjeu de renouveau social et ecclésial si nous nous laissons vraiment interpeller, voire façonner par le cri des plus pauvres. Et au paragraphe 103, l'amour des pauvres est la garantie évangélique d'une Église fidèle au cœur de Dieu. On peut méditer longuement cette phrase, hein. L'amour des pauvres est la garantie évangélique d'une Église fidèle au cœur de Dieu. C'est l'amour des pauvres qui nous garantit qu'on est ancré dans l'Évangile et qu'on est ajusté à cette compassion, à cet amour de Dieu. Il ajoute, en effet, tout renouveau ecclésial a toujours eu parmi ses priorités cette attention préférentielle envers les pauvres. Ça me semble important parce qu'en France, on parle d'un renouveau de l'Église qu'on lit par exemple à l'afflux des catéchumènes, ce qui est évidemment un signe majeur pour nous. Mais manifestement, ça ne suffit pas. Ce qui permet de vérifier l'authenticité d'un renouveau ecclésial, c'est que l'attention préférentielle envers les pauvres figure parmi les priorités de la communauté. C'est le pape qui nous l'enseigne. Merci beaucoup de m'avoir écouté.